Penalty, moi je lui ai dit non, parce que j'étais blessé. Parce que j'avais pris à coup et j'étais en train de me soigner. Et je lui ai dit non, Michel. Et lui revient et il me dit une fois le septième. Il y a 120 minutes de jeu, c'était que j'avais pris un coup, que le sous-marin sur la première mi-temps qui me faisait mal, je vais pas tirer le penalty, j'étais pour finir Michel et venir me voir. Je lui ai dit, mets-moi dans la liche. Enfin, là, ça s'est passé comme ça. Le penalty, je le rate pas complètement, mais pourquoi j'ai pas fait comme la veille, quand on a été devant la lutte pour mettre s'entraîner au penalty, j'ai pas frappé de tête très fort. Pourquoi? Je sais pas. Si j'avais mis plus fort, peut-être que, on aurait gagné, c'est tout.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des légendes
consacré à DJ Six. On a parlé lors de la première partie de l'épisode précédent de ses débuts, de sa carrière en club et du mondial argentin de 1978. Et là, nous allons consacrer cette deuxième partie à la Coupe du Monde 82, avec bien entendu Séville, mais aussi de la suite de sa carrière avec, entre autres, son passage à Galatasaray. Coupe du Monde 82.
Premier match contre l'Angleterre. Alors, tu joues, je crois, la fin du match. Tu rentres dans les 20 dernières minutes.
Dans les 25 dernières minutes, oui.
Donc, c'est un match où apparemment, ça n'a pas été très bien préparé. Il faisait très, très chaud. Vous êtes à, je crois que c'est à Bilbao.
Bilbao, il faisait 45 degrés. C'est pas qu'on n'était pas bien préparé, c'est que, on a appris beaucoup de choses petit à petit. Et sur ce match, par exemple, on rentre à la mi-temps. Les Anglais, la première chose qu'ils ont faite, ils ont pris une douche. Nous, on est au châssis, on n'a pas pris de douche. Peut-être que c'est ça qui a mis le plus pour les Anglais. On prend un but aussi au bout de quelques secondes. C'est difficile. Le premier match, on joue contre la plus grosse équipe égo. Et d'avoir quelques secondes, de perdre 1-0. Malgré ça, on a continué à jouer.
Alors justement, Jean-Luc Littoré nous disait qu'après le premier match, tout le monde avait un peu pris conscience que bon voilà, c'était juste un raté, il n'y avait pas vraiment de défaitisme ou quoi que ce soit. Ce deuxième match, c'est contre le Koweït, avec cet épisode un peu abracadabrantesque de l'émir qui descend sur le terrain, qui fait annuler le but. Alors toi, tu marques un but splendide. La France gagne 4-1. Là, donc, tu joues le match, tu joues les 90 minutes. Quel est l'état d'esprit là?
L'avantage, c'est qu'on prend 4 buts. Donc, ça nous met une confiance supplémentaire.
Ouais. Donc, le dernier match contre la Tchécoslovaquie, tu joues, tu marques de nouveau.
Oui. C'était un match très difficile. La Tchécoslovaquie avait loupé très peu de Coupe du Monde. Et donc, c'est une équipe qui avait un potentiel défensif est énorme. Ce match-là, on doit le gagner 4-2. On a été aussi maladroit sur certains matchs.
Et ces quelques matchs de l'équipe de France, à ton avis, quelle est la force de cette équipe?
Une confiance prise, le fait d'être bien ensemble. Une confiance qui s'est accrue. Le fait qu'on se retrouve.
Ça fait quand même un petit moment que t'es dans cette équipe. Il y a eu cette image que Hidalgo était quelqu'un qui consultait beaucoup les classiques, que ce soit Marius Trésor, Platini, au niveau tactique, au Bossis. Est-ce que toi, tu faisais partie un peu de ce conseil des sages?
Oui, de temps en temps, Hidalgo, avec tout le monde. Il ne faut pas oublier que c'est contre l'Irlande. Platini, a pris un coup, il ne joue pas. Bon, il faut rechanger les pions, mais c'est un match qualificatif. Et dans ma tête, si Platini ne joue pas ce match, Hidalgo avait dans la tête de le prochain match, Michel serait là pour la qualification.
Et donc la France bat l'Irlande du Nord 4-1. Pareil, tu joues crois, la dernière demi-heure. Là, du coup, c'est les demi-finales de Coupe du Monde, donc première demi-finale depuis 58. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, Jean-Luc Ettori, sur le programme, il y a eu des milliards d'articles, d'émissions, de podcasts qui ont été écrits sur ce match. Une des problématiques, c'était le gardien. Est-ce qu'il y avait un débat en interne, toi qui faisais partie du conseil des sages, pour choisir le gardien titulaire pendant la Coupe du Monde?
Non, il n'y avait pas de débat en interne. Non, il y avait un sélectionneur qui était là pour mettre son équipe en place. L'entraînement, les trois gardiens qui étaient à l'entraînement étaient montrés qu'ils avaient envie et que pouvaient être là. Il y avait un choix à faire. Michel a fait son choix. Après, c'est facile. On aime critiquer, on aime mettre des points négatifs. Moi, je sais pas ressenti la faiblesse en étant X, Y.
D'accord. Match, Ituri fait une bonne demi-finale. Il arrête même un pénalty allemand. Je crois que c'est le seul gardien à avoir arrêté un pénalty allemand.
Le but de Ligorski, il n'a pas vraiment de l'équipe. Parce que ce ballon ne passe rien.
Tu joues, t'es titulaire contre l'Allemagne. Est-ce que pour toi, ça a un aspect un peu particulier, puisque tu joues Stuttgart à ce moment-là, depuis un an?
Oui.
Quelles informations tu donnes aux autres joueurs de l'équipe de France sur l'Europe?
Mais avant tout, c'était de jouer notre collectif contre l'autre allemand qui
est tout. Est-ce que tu parlais allemand à ce moment-là ou pas, Didier? Est-ce que tu parlais allemand à ce moment-là ou pas?
Oui. Ouais.
Donc, tu étais capable de comprendre ce qu'il raconte. T'as pas eu de jouer.
Oui. T'es dans le match, je sais qu'il est. Ouais, j'avais une mission importante par rapport à ce que m'avait posé Michel Hidalgo, c'était empêcher Manicals de monter et de centrer.
D'accord.
Et t'as fait ça, justement.
Il a fait un saut. Il a pris un centre sur le match. On a souvent discuté après avec Mani sur le truc. Il m'a dit, tu m'as fait chier, ballon tout le match. Mais c'est parce que c'était un mec adorable. Donc, contre les Allemands, il fallait aussi libérer Michel Platini, du marquage qui voulait lui mettre. Donc, pour que Michel puisse exploiter toute la magie qu'il a en lui. Et donc, il y a eu des choix tactiques à mettre en place par rapport à un jeu des pages défensives.
Alors, est-ce qu'il y avait une causerie tactique avant le match poussé de Diego?
Oui, on a mis en place toute notre stratégie, qu'on pensait bien. Et notre meilleure stratégie, c'était de trouver notre jeu et de les étaler.
Et de ne pas s'adapter à leur
couleur. De pas jouer seulement sur une phase contre les Allemands.
Et donc, pour nos auditeurs, pour l'auditeur qui n'est pas familier avec ce match, donc les Allemands marquent 1-0, égalisation sur penalty, tir de Damoros sur la barre à 3 secondes de la fin, prolongation. Alors, je parle même pas de l'épisode de Baptiste.
Le tir d'Damoros, c'est le ballon revient. Et je reprends le volet, repasse à quelques centimètres au-dessus de la barre.
Est-ce que tu en as marre de parler de ce match dont on te parle tout le temps?
C'est comme si tu me dis, t'en as pas marre de signer les autographes. J'ai moi, 40 ans après, 50 ans après, de signer les autographes, peut-être que si ça se passait pas comme ça, peut-être que c'est. Je sais peut-être aigri, là, je ne sens pas du tout aigri. Au contraire, il y a des choses qui ont été écrites, elles resteront écrites, même si je ne sais pas si 98, je vais passer la dernière Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. On restera une belle époque et une belle équipe durant ces 10 ans qu'on voit le jouer ensemble.
Quand tu penses à ce match, quelles sont les images qui te reviennent?
Obligatoirement les pénaltys. Pourquoi au lieu de le pénalty, je le rate pas complètement, que je loupe. C'est le gardien qui arrête aussi. Mais pourquoi j'ai pas fait comme la veille quand on a été devant la lutte pour s'entraîner au pénalty, j'ai pas frappé très très fort. Pourquoi? Quand c'est bon, je sais pas. C'est bon. Il y a 120 minutes de jeu, j'avais pris un coup avec le Chouvarin sur un premier mi-temps qui me faisait mal. Je vais pas tirer le pénalty. J'étais pour finir Michel et me voir. Je lui ai dit, mets-moi dans la liche. Et voilà, ça s'est passé comme ça.
Comment ça s'est passé, justement, la décision des tireurs de pénalty? Comment ça se choisit à ce moment-là? Il y a 120 minutes. Il y a quand même beaucoup de pression. Comment ça se passe?
Il y en a certains qui veulent pas. Et là, si t'attends. Ah, well, moi, j'ai dit, moi, j'ai, je sais pas que j'ai donné le nom, mais il y a,
bah, si,
moi, j'étais,
c'est une description, ça fait quatre jours. Non?
Non, non, la perception. Ce sont des potes avant tout. Et c'est pas comme ça. Moi, j'avais dit non.
Ouais, toi, t'avais dit
non. Moi, j'avais dit non parce que j'étais blessé. Parce que j'avais payé à tout et j'étais en train de me soigner. Et je dis non à Michel. Et lui revient et il me dit une fois le septième.
Ah ouais, donc toi, il manquait un joueur. Et donc, c'est toi où tu dis finalement, tu dis oui.
Finalement, mets-moi sur la liste.
Et alors, il y a eu un petit débat. Alors, j'espère que tu peux le trancher. Comme quoi, à la base, Hidalgo t'avait dit tu serais cinquième, Blatty.
Cinquième.
Et t'as mis quatrième.
Et pour finir, j'entends de mes terrains, tu es le cinquième, j'entends. Et on me dit, c'est à toi de le sur l'arbitre. Il me dit, c'est à vous.
Alors, c'est l'arbitre. Pourquoi il dit ça, l'arbitre? Parce qu'il a la consigne comme quoi t'es le quatrième ou c'est parce qu'on...
Non, bah, il a la feuille sur les tirants avec les noms.
Ah, d'accord. Et donc, finalement, Michel Hidalgo a changé et t'as mis un quatrième.
Je sais pas.
Et là, quand tu apprends que t'es quatrième, c'est quoi ton état d'esprit?
Ça va vite, hein. Ça passe très, très vite. Tu vas pour tirer.
Donc, tu te poses pas de questions, là.
Ça fait chier quelque part parce que le cinquième penalty n'était pas obligatoirement celui que j'aurais dû tirer. C'est-à-dire, le cinquième penalty, soit qu'on l'a éliminé, soit qu'on peut passer avant le cinquième.
Dis donc, ça te met pas dans les mêmes dispositions.
C'est chercher des excuses. Il était raté. C'est chercher des excuses. Il n'y a pas à chercher des excuses. Si j'avais mis plus fort, peut-être que, on aurait gagné, c'est tout. Pourquoi je voulais pas tirer aussi? C'est que moi, je suis en Allemagne.
Ouais.
Donc, avec deux mecs qui étaient là, trois mecs avec un simulaire. Karl Leveron. Un simulaire. Bernd Förster, Karl Förster. Quatre mecs qui savaient très bien comment je tirais.
Oui, bien sûr, parce que toi, tu connaissais ces Allemands-là, mais l'inverse, c'est vrai.
Bah, l'inverse, c'est vrai.
Alors du coup, tu parles un peu avec Jean-Luc avant la séance de tir au but, en lui disant, voilà, le tel et tel, je sais comment il va la tirer, etc.
Oui, on n'a pas eu le choix.
D'accord. La première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe du Monde. On n'a pas eu avant. C'est vraiment la toute première séance de tir au but.
Ouais.
Donc tu tires en quatrième.
Quelle même chose qu'on a eu de ne pas être en 82 qui n'est pas mis les lois de 98.
Ah oui, sur le but en or.
Eh oui. But en or, le dernier défenseur, déjà, Schumacher dégage.
Bah, déjà, avec un arbitre différent. Alors, si on fait un peu de football fiction, avec un arbitre différent, il termine le match à 10. Ça, c'est une évidence.
Bien sûr.
Et donc, à part la séance, alors, je sais que la séance au tir au but, ça, c'est quand même donc énorme. Donc, pour nos auditeurs, je rappelle, tu tires le quatrième tir au but, Schumacher l'arrête. D'ailleurs, même pour la petite histoire, les téléspectateurs ne voient pas le tir au but parce qu'il est encore attardé sur le tireur qu'il a raté. Alors maintenant, je sais que pour les amateurs, la FIFA a retrouvé une autre vidéo d'un autre angle où tu peux revoir le penalty. Donc le tir arrêté par Schumacher, ensuite Bossis. Alors ensuite, ça se joue au coup par coup. Bossis tire et rate, ou plutôt Schumacher arrête, et Rubesch qui marque le dernier pénalty. Et donc, Jean-Luc Ettori, c'est marrant parce qu'on parlait avec lui il y a quelques semaines, et lui, il revit ce dernier pénalty. Il se dit encore, il disait lui-même, pour le citer, j'ai dit,
j'arrête.
7 ans maintenant, là, et je l'arrête, comment j'ai pu ne pas l'arrêter? Est-ce que c'est un match que tu revis, tu te réveilles en pleine nuit et tu marques le penalty dans ta tête ou c'est où tu as
non, mais je me dis, tu vraiment tiré cette coupe pour la veille que tu l'entraînement, tu mets des sacs qui rentrent tous et que là qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'assures,
Même maintenant, même cette année,
même dans le match, dans les matchs, n'importe quel match, quand j'étais pas dans le match, je m'assurais.
Alors, c'est quoi ton gros mot favori pour te traiter de t'insulter?
Qu'un seul coup. Je suis à Salzbourg.
Et est-ce que quand t'étais en Allemagne, tu te laisses d'insulter en allemand?
Je dis bonjour, monsieur. Bonjour, que toute la semaine, tu as travaillé pour aller pour 90 minutes le dimanche. Et là, maintenant, tu risques pas chaque fois.
Pour en revenir à cette demi-finale, ce que disaient pas mal d'observateurs, aussi pas mal de joueurs, c'est que il n'y avait pas vraiment de, il n'y avait pas trop de cynisme dans cette équipe de France. Si Michel Platini avait déjà joué en Italie, il avait eu un an de plus sous la semelle, il aurait pu être un peu plus cynique par rapport aux Allemands, par rapport à comment défendre à 3-1 ou comment gérer un arbitrage qui était quand même catastrophique. Est-ce que ça fait partie de ta vision du match?
Le match, on l'a joué comme il le fallait. Comme il le fallait. On a joué contre une équipe qui était une des meilleures équipes du monde à cette époque-là. On va pas rechercher quelque chose. Il y a une dramaturgie sur ce match qu'on n'a jamais revu dans le football. Même sur la dernière finale France-Argentine. Parce que on n'a pas eu 70 minutes, on a joué. Sur ce match, on a fait tout ce qui était à dire, on a tout donné. Et ce jour-là, le fait d'être une nation montante n'a pas fait que l'arbitre nous a donné un avantage et un appui.
Et est-ce que toi, à 3-1, ayant joué en Allemagne, étant, je dirais, peut-être plus familier avec la mentalité allemande, de ne jamais abandonner, en tout cas à l'époque. Est-ce que tu te dis, tu fais partie de ceux qui disent, attendez les gars, faut garder la tête froide, ou est-ce que tu vraiment toi aussi t'es pris dans l'euphorie, et tu te dis, ça y est, on est en train de les atomiser, la finale, c'est, voilà, ça y est, on arrive en finale.
Match, quand on est 3-1, il y a certains joueurs, moi physiquement, je faisais partie des 3-4 qui avaient un physique assez important. Notamment en course. Donc, il y a certains joueurs qui ont dit, on écrit, viens nous aider, c'est ce qu'on a fait.
D'accord.
C'est ce que j'ai fait. Mais on a peut-être un peu trop reculé. On a perdu un ou deux ballons qui étaient trop faciles, qui nous ont permis de donner le contre. Parce que quand on prend les deux buts, il ne faut pas oublier que c'est nous qui tombons. Nous jouons pour aller devant, et alors qu'on était à 3, alors qu'il aurait peut-être fallu avoir peut-être un Didier Deschamps qui a ses qualités, mais qui n'est pas un meneur de jeu, mais qui est un meneur d'homme, et qui lui a une gueule.
D'accord. Je pense que c'est ce que voulait dire Michel Platini. Il aurait bien voulu avoir un ou deux ans en plus en Italie pour être celui qui allait calmer l'équipe et restructurer l'équipe dans ce moment un peu foufou de.
Oui. Et ça s'est passé tellement vite. Avec la blessure de Batiston, tout ça, ça s'est passé tellement vite.
Après le match, comme tu disais, vous avez vraiment donné l'impression d'avoir tout donné. Donc il y a pas, bon, évidemment, il y a des regrets, mais il y a quand même cette satisfaction d'avoir joué un match extraordinaire, d'avoir tout mis sur le tapis.
Sur rencontre, on est passé à côté de la finale. Hein. J'ai beaucoup trop pleuré. J'étais tout à fait donné.
Et toi, ouais, donc justement, émotionnellement, c'est quand tu sors de ça.
Parce que tu sais que si je marque le penalty,
c'est une autre histoire.
Tu vois, on est conscient. On a pris l'avion à 1h ou 2h du matin, mais déjà avant, il était dans l'aéroport, en avion, en changeant de ville.
Il paraît que c'est un petit côté cruel, effectivement, c'est que vous allez tout de suite après le match à l'aéroport, et puis il y a un avion qui va, je crois que c'est à Madrid pour la finale, et puis un avion qui va, alors il me semble que c'est à Alicante peut-être, pour le match de la 4e place, pour le match de la 3e place. Donc vous voyez les Allemands, vous revoyez l'arbitre qui, paraît-il, rigole avec les Allemands. Qu'est-ce que tu penses personnellement de l'arbitrage?
Je tiens une équipe montante, que l'Allemagne était une des meilleures équipes du monde, dans les trois meilleures équipes mondiales. Après, que l'avantage a été donné, Mais l'avantage de ma langue, les Hollandais parlaient vraiment. Hein.
Et alors, toi, tu as à peu près 3-4 collègues qui sont dans l'équipe d'Allemagne. Tu veux te voir ou tu restes assez seul? Enfin, comment ça se passe avec les
collègues? Karl-Heinz Benthurster, Jean-Sin Müller, ils sont venus le voir.
Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu t'en souviens ou c'est trop?
Sincèrement, je m'en souviens. Chose traditionnelle que
pour les... Parce qu'on a l'image de deux équipes qui se détestent à la fin du match, etc. Mais en fait, c'est pas du tout. Alors, il y a effectivement Schumacher. Je pense que tout le monde a envie de trucider. Mais à part lui, il y a pas de détestation entre les joueurs. C'est plus, voilà, c'est les guerriers fatigués.
Ça fait partie, plus de 40 ans après, on en parle encore.
Oui, bien sûr.
On a fini d'en parler, je pense. Et donc, match pour la troisième place, d'après ce qu'on a compris, c'est que personne n'a envie de le jouer. Tout le monde a envie de rentrer chez soi. Le match, alors toi, tu joues quand même, tu joues quelques minutes. Alors, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu de ce dernier match.
C'était un peu logique. Michel, tu as joué, j'ai joué. Mais,
et donc, quatrième place, vous l'avez dit avant la Coupe du Monde, ça aurait été un peu inespéré. J'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, mais évidemment, au vu de la demi-finale, il y a quand même des gros regrets. Est-ce que, à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, dans 4 ans, la Coupe du Monde recommence, on va essayer de refaire, ou est-ce que tu te projettes pas aussi loin?
Non, on se projette pas aussi loin. On avait une championnat d'Europe
qui arrive. Voilà.
Donc, moi, je projette plus sur le championnat d'Europe, mais pas en Espagne.
Trop tôt, toi, tu joues à... Donc, tu es parti de Stuttgart pour aller à Mulhouse.
J'étais en première division, il restait 2 points à prendre. Il restait, je crois, chaque match, ils ont marqué les 2 points. Et moi, je suis retrouvé en seconde division, et j'ai que 2 joueurs qui ont joué en seconde division. Et qui ont fait une équipe de France, et Max Bossy aussi, c'est bon.
Max Bossy, c'était Guillaume, Nantes. Attention, l'alerte est lancée.
Non, mais c'est Max Bossis quand il signe effectivement au Racing pour aider le Racing. Hein.
Oui, il n'y a pas que ça. C'était là comme nous pour chaque monté. Hein. Signature était la signature de la plus chère.
Oui, c'est sûr.
Ouais, tu as fait raison.
Et donc, l'Euro, tu gagnes. Ce sera ta dernière compétition avec l'équipe de France.
C'est la seule mission que j'ai de ma carrière.
Mais vu ton jeu, c'est incroyable d'avoir aussi peu de blessures et d'être aussi,
du effort.
Honnêtement, je pense, étudier ton corps pour comprendre comment t'as pu faire une carrière aussi. Le jeu que t'avais. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je crois que personne s'en rend compte.
Il y a des joueurs qui sont plus joueurs fragiles. Je suis un boucheur, hein.
C'est vrai, bien sûr.
Ça fait partie ce genre de physiologique qui a fait partie de ma réussite en Allemagne.
Et en Angleterre?
En Angleterre, si je voulais pas y aller.
Allons?
Ah oui? Je voulais pas y aller.
Alors, qu'est-ce qui t'a décidé?
C'était que, parce que l'Angleterre était suspendue de toute compétition européenne. J'étais dans un bon club, un très bon club. J'avais 2 mois sans, parce que je suis arrivé à Mulhouse en étant champion d'Europe. Il y avait un entraîneur qui était à Mulhouse qui m'a dit, tu fais pas partie de mes joueurs qui sont que j'ai vu avec le président. Donc, tu vas t'entraîner avec qui?
T'as 50 de sélections, tu as gagné le championnat d'Europe et l'entraîneur te dit ça.
Ouais.
Et c'était qui, en fait?
C'était la première fois que t'as payé, là.
À chercher, c'est votre boulot de chercher.
C'est la première fois que ça t'arrive, ça, d'envoyer au Loft un entraîneur.
On me dit, t'es pas sur mes tablettes alors qu'ils sont combien en seconde division. C'est là que j'ai un ami qui connaissait le président de Boston Villain et qui m'a dit, viens passer 2-3 jours à Boston Villain. Je dis, non, je veux pas en Angleterre. Et pour finir, j'y vais parce que, m'a dit, quand on peut programmer un match, comme ça me permettra d'avoir un match, bien, quand je vais là-bas, j'arrive le dimanche soir, le mercredi soir, j'avais prévu un match, ça collait pas entre Mulhouse et Aston Villa pour le transfert, je lui dis tant pis, je repars, le lundi, il me dit, on a programmé un match le mercredi après-midi, contre une deuxième division. Là, je dis, il faut que je reste pour avoir au moins un match en Ligue 1, ça va me faire du bien, voilà, là, deux jours après, je reste. Là, on gagne, je suis performant sur j'ai eu l'impression que tous les ballons arrivaient sur le côté gauche, ils ont dû dire, on a sorti de ça, le cher président Ray, avant un dîner, et il me dit, on te garde chez nous. Et je dis, demain, je repars. Mais non, tu ne repars pas.
D'accord.
On a un match au samedi, et ça, c'était mercredi, et moi, j'avais pas de préparation. Hein. C'était mercredi, et on me dit, on a un match au samedi. Et il me dit, on veut que tu joues.
D'accord.
Le match de samedi, c'était Manchester United, 37 matchs sur l'échec.
D'accord, donc un ordre.
Et on vient de croire, je suis marqué deux buts sur des centres. On avait Peter Lewis qui était un joueur hors norme de la tête.
Mais tu avais quand même une capacité incroyable de t'intégrer très rapidement dans des équipes.
Oui, j'ai une adaptation créée partout où dans n'importe quel endroit, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur.
Et c'est basé sur quel, pourquoi? Comment tu juges ça, cette capacité?
Je sais pas, je suis né comme ça. Avec mes parents, on a pas mal bougé aussi, donc ça m'a permis aussi d'avoir cette capacité. Mais je m'intègre, j'essaie surtout de m'intégrer en n'étant pas, en m'amenant pas avec tous mes préjugés, en disant, ils vivent comment là-bas, comment ça se passe, quel est leur loisir. En Angleterre, j'ai joué la première saison au golf en Angleterre, ils m'ont amené ça, qui dit qu'il vient avec nous. En Allemagne, j'étais en Allemagne, il y avait préjugés extérieurs. Il fallait faire attention à tous les gestes qu'on pouvait faire. Quand j'étais Galatasaray, c'était l'écriture que c'était une faute en tant que Français d'aller jouer chez les Turcs, chez les Arabes. Alors que j'ai commis des choses extraordinaires dans tous les endroits où je suis passé.
Et donc, tu restes là-bas pendant un an.
J'en fais marquer 9 et je marque 2.
Et donc, bon, quand même, sur 16 matchs, c'est quand même pas mal. Et tu restes pas, tu termines la saison et ensuite tu retournes en France, à Metz. Puis Strasbourg de nouveau, puis Valenciennes, et ensuite Galatasaray. Alors, Galatasaray, c'est un peu ce côté mythique de cette histoire où tu changes de nom, tu prends la nationalité turque. Est-ce que tu peux nous raconter? D'accord.
Coupé un peu, donc je vais répéter. Donc tu disais que pour les Turcs, il n'y a pas de X, donc ils ont mis la lettre suivante.
Comment s'appelle Kamal Foster en France? Jean-Pierre, je sais pas pourquoi. Jean-Pierre Foster. Pour qu'il y ait plus de joueurs qui puissent jouer dans le championnat de France comme dans le championnat turc. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait que 3 étrangers qui pouvaient jouer.
Et donc, tu prends un
autre.
Est-ce que ça se fait naturellement?
On était 4 à prendre à dire oui. Le club nous a demandé, on était 4 à dire oui.
Et donc, ça se fait assez rapidement, assez naturellement. Donc, c'est pas, donc, toi, t'as pas, c'est vrai que ça a ce petit côté anecdotique, mais bon, ça a l'air d'être juste une petite étape administrative, qui a pas l'air extraordinaire que ça.
Quand je suis arrivé, ça a mis un mois et demi où j'étais dans les tribunes, de pouvoir jouer. Et donc, je m'entraînais, mais je pouvais pas jouer parce que il y avait justement ces petits qui étaient en cours. Et quand ils sont venus, il fallait que trois joueurs prennent la nationalité. Et pour finir, il y en a un quatrième, puis c'est moi qui l'avais aussi.
J'ai l'impression que c'est que des bons souvenirs pour toi, Galatasaray. Est-ce que je me trompe?
Oh oui, c'est une institution, Galatasaray, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est une école. c'est pas un club de football, c'est une école. Dans l'école, il y a où tous les politiques d'Orgam sortent de Galatasaray, souvent. Et dans cette école, il y a le foot, il y a un club de foot, il y a un club de basket, il y a faire plaisir à savoir vivre extraordinaire qui est dans le Kenya. C'est une école où j'apprends le français. Je reste un peu plus d'un an et demi. Pourquoi? Parce que il y a Hugues Derval qui est malade et qui chante. Et c'est Hugues Derval, l'entraîneur allemand de 82, qui me fait venir à Galatasaray. Et quand il me fait venir, il vient passer une semaine à la maison. Je suis allé pour finir la convention s'est faite. Et je la regrette pas parce que j'ai vraiment connu des choses extraordinaires.
En Turquie, à ce moment-là, comment ça se passe? Il y a le club, mais il y a la vie en Turquie. Tu t'adaptes bien aussi à la vie turque?
Oui, je me suis bien adapté. C'est un beau pays, hein. C'est une belle ville, hein. C'est une belle ville, comme ma ville ici. Je suis avec Belmo, Marrakech. C'est une très belle ville. Il y a une histoire, dans cette ville. Non, on jouait Coupe d'Europe, on jouait le championnat, on a gagné.
Est-ce que tu regrettes de pas y être allé plus tôt, du coup? Parce que là, tu y es, je crois que tu as 34 ans, à ce moment-là.
Non, je réfléchis pas à savoir qui quoi. Ça, c'est une opportunité qui s'est offerte, que je ne connaissais pas et que j'ai regretté au départ. Mais après, je me suis aperçu que j'étais dans un monde d'hommes qui étaient droits. Il y avait un président qui s'appelle Hachkapiam. D'une droiture, cet homme extraordinaire.
Tu passes donc un peu plus d'un an et demi. Ensuite, tu reviens en France, tu joues au Vauban de Strasbourg.
Parce que l'entraîneur, c'est du Guébéron, qu'on a joué ensemble à l'ancienne, ça faisait partie, on jouait en troisième division, ce qui est national maintenant, où on a fait une à Strasbourg, j'avais ma maison à Strasbourg, j'habitais Strasbourg, donc c'est une opportunité de chien, c'est pour compter.
Et une grosse histoire d'amour avec la Turquie, mais aussi une petite histoire d'amour avec l'Alsace, j'ai l'impression, avec Strasbourg. T'as deux piges à Strasbourg, une petite pige à Mulhouse. Tu étais entraîneur aussi à Königshofen. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en...
Non, j'avais ma maison là-bas, j'avais très belle maison, j'étais bien, j'avais des amis,
Tu termines par une pige à Leipzig, et là, tu as presque, peut-être 37 ans, tu dis, ça y est, j'arrête de jouer, ou est-ce que tu as continué dans des divisions, juste en amateur pour le plaisir?
Wow. Tu avais ta dernière licence à 57 ans. Impressionnant.
Tu avais une sélection européenne en Allemagne. Et l'entraînement, le match était limité. Et là, je joue encore au niveau de ce qui est national maintenant. Donc, entraînement régulier. Et là, mon ancien entraîneur de Stuttgart m'appelle et me dit, faudrait que tu viennes me aider.
Ah, d'accord.
Mais j'ai dit, mais tu sais quel âge que j'ai? Ils disent, je m'en fous. Et c'est pour ça que j'ai passé une semaine chez un jeu. Quelque part, le jeu même a été poussé, puisque quand je vais passer la semaine, il m'a dit, bon, le président est là, faut sauver le président. Et j'ai dit, président, j'ai en Allemagne, ils ont des formulaires de contrat, tout fait. Et il me dit, oui, vous avez un formulaire? Et il me dit, oui. Je dis, président, je vais me chercher le formulaire. Et je prends le formulaire, je le signe. C'est à vous de mettre ce que vous voulez mettre.
Ah oui, d'accord. C'était vraiment pas du tout.
Donc c'était vraiment la mission de plaisir.
Puis c'était une bonne expérience de la vie après les murs de Berlin. On voit comment les gens, dans certaines maisons qui étaient mises à l'abandon, on avait l'impression que quand on a ouvert le mur, c'est-à-dire donner la liberté de pouvoir passer, que le mur n'était pas encore prêt, et de donner cette liberté que les gens allaient chez l'assiette, des poupées, des enfants, et tout.
Tout à repartir.
dans la maison, mais c'était comme si qu'il y avait qui venait juste de déjeuner ou de dîner. Donc, l'expérience de la vie qui était, quand on me dit j'ai eu plusieurs vies, mais ça fait partie de ça.
Galatasaray, c'est le côté un peu exotique des choses, mais Leipzig, ça peut être un peu plus choquant.
Enfin, c'est surtout Leipzig en 91.
80. Vraiment, un autre monde. Hein. D'autres mondes, c'est pas
un monde complètement différent qu'on connaissait pas. Il y avait ce mur qui empêchait de le connaître.
On va peut-être avoir Alain Giresse. Enfin, en tout cas, on est en contact avec lui pour l'avoir sur le programme. Quelle question tu aimerais lui poser, toi, si tu devais lui poser une question? Alors, quand on a eu Jean-Luc Ettore, il nous a dit que apparemment Giresse a revu le match France-Allemagne des centaines de fois. Est-ce que tu as une question à lui poser? Est-ce que tu es encore en contact avec lui?
Et donc, la question à poser, est-ce qu'il se souvient? Est-ce que je me souviens quand il marque les deux buts contre l'Irlande et quand il marque son deuxième but de la tête, il me dit à moi, j'étais tout à côté de lui, mais tu te rends compte de la tête, moi, c'était un beau truc, mais avec toute la finesse de Jésus.
Dans l'univers, évidemment.
Vous avez un groupe WhatsApp des anciens de 82 ou des anciens de 84?
Non, il y a tout dernier, on devait avoir quelque chose de plus soudé. C'est pas, on a des vies séparées, on a des vies internes. Moi, je suis encore entraîneur. Il y en a beaucoup qui sont déjà, donc, il faut se jouer par rapport à sa vie. Ma vie, elle était, sur la suite maintenant, c'est tout à fait logique. Mais de rencard, nous, notre génération des 78-82, la fédération n'a pas toujours été correcte vis-à-vis de ça. Et ça, il faut le dire aussi. Parce qu'il y a une chair. On a eu tout même un entraîneur qui s'appelait Michel Hidalgo. On a osé lui dire, mais il travaille plus à la fédération. Il y a plein de petites choses comme ça qui restent à travers la gorge. Moi, avec ma grande gueule, je ne suis pas capable de le mettre sur le truc. Parce que la grande gueule, elle ne change pas. Il n'y a pas assez d'aujourd'hui qui se sont changées. Mais il y a certains internationaux qui en sont. Voilà, je vais proposer ça. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier pour eux. J'en souffre pas spécialement, mais c'est une logique, il faut le dire maintenant.
Quel est ton meilleur souvenir, ton plus grand souvenir en équipe de France? Est-ce que c'est l'Euro? Est-ce que c'est ta première sélection?
Le dernier d'avoir côtoyé cette équipe avec les joueurs qui étaient là, je pense que c'est le meilleur souvenir, il est là. C'est cette expérience que tous ces rêves qu'on a pu donner, qui était notre rêve, ça va sera. Et comme je dis, il peut y avoir la boucle de croix. Ce qui est écrit, elle est écrite, que ce soit maintenant, que ce soit avant, à notre époque, que ce soit l'école de 98, que l'école de l'époque de maintenant, détériorer les choses, c'est très facile. C'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut penser, être très modéré et ne pas voir juste le petit lendemain quand ça intéresse certaines personnes.
Et justement, pour continuer les questions un peu tordues là, que a commencé Michel, tu as été dans tellement de clubs. C'est quoi le principal? Donc, quand Strasbourg affronte Metz, quand Lens affronte Valenciennes, ton cœur est pour quel club? Et tu dois être honnête. C'est une des dernières questions, tu dois vraiment dire la vérité. Pour qui tu es?
Non, je regarde les choses. Moi, quand j'essaie d'être en dehors de ça, je suis plutôt, j'en ai plutôt l'aspect tactique, quelle tactique ils vont employer, quels sont les joueurs qui vont jouer, quels sont les joueurs qui sont. Je me mets pas dans l'aspect intime de cœur, parce que j'ai vécu des bons moments dans ça.
D'accord.
Tu étais à Metz, j'étais à Metz, pense avoir fait partie pour une grosse partie du trophée de meilleur buteur de cette bocandée. C'est plein de choses. J'ai connu Marcel Huchon, qui était l'entraîneur de Metz. Sacha Vest aussi. Ce sont des choses qu'on oublie. Oui, tu poses une question.
Ouais, je disais, c'était un joueur dans lequel tu te reconnais. Un joueur un peu comme toi, insaisissable, ailier, vif, rapide, qui marque aussi pas mal de buts.
Et dur au mal.
Et très dur au mal, ouais.
Non, parce que c'est des époques différentes. Je pense qu'on connaît dans les joueurs. Chaque époque, chaque joueur, il n'y a pas d'équilibre autour de sur ça.
D'accord.
Donc, non. Faut pas, j'ai eu ma période, avec mes qualités, chez mes garçons. Mais non, chaque joueur doit se spécifier par lui-même.
Alors, question qu'aime bien poser Guillaume, et je vais un peu la lui piquer parce qu'elle est pas si mal que ça. Comment tu définirais ta contribution au football, modestement ou pas?
Je parlais tout à l'heure que quand tu allais à la UFC, que j'ai signé le contrat sans qu'on ait discuté de prix, de salaire. C'était, je dis, vous mettez le salaire où vous voulez. Parce que j'avais envie, et ça fait envie que tu fais pas obligatoirement, même si, l'aspect financier permet de vivre. Je pense que ça, c'est un très important. Ce qui est important aussi, c'est de, j'ai pas envie de, voir cette démigration qui est actuellement, peu importe qui, que quoi. Que ce soit avec la fédé, que ce soit entre les joueurs ou autre. On arrête tout ça. Faut arrêter tout ça. Faites vos vies, jouez votre vie. Et souvent, les joueurs sont pris à partie aussi. Alors que souvent, on parle des joueurs. Moi, je suis toujours à mon fichier quand on dit, gagne trop d'argent, les joueurs maintenant, c'est ceci, c'est cela. Qui gagne trop d'argent? Un joueur n'a jamais mis sur la table. Puis si on est sur la table d'une personne pour le faire signer, un, et deux, le joueur, il est sur le terrain, pense au terrain, et les terrains. Il a envie de gagner. C'est pas une prime, c'est pas. Après, il y a ces discussions qui sont normes maintenant. C'est pas mieux pour ceux qui gagnent qui, ça.
Et tu devais donner un conseil, justement, à un footballeur qui veut s'exporter. Est-ce que t'as
un truc?
Dites pas, tu veux qu'on va aller. Il y a trois mots qui sont importants. C'est travail.
Une belle façon de conclure.
Merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment un très beau moment.
Mais je pense qu'on aurait pu encore parler pendant 2 heures. Hein. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de l'euro, mais je pense qu'on t'a quand même pris pas mal de temps là entre aujourd'hui et les problèmes techniques d'hier. Merci de ta patience. Merci de ta passion. Merci surtout des souvenirs, hein, parce que tous les souvenirs que tu nous as donnés au cours de toutes ces années, tous les buts aussi, tous les fans de l'équipe de France, entre autres. Merci Didier. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes. La musique du générique, c'est The Tartan Rascals, un groupe écossais, avec Looking at You. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.